ça pour lui c'était vraiment féminin. Et...
Je vais pas venir le truc tout de suite.
Ouais, c'est pas pareil.
C'est exactement ça quoi.
Mais c'était horrible.
Non mais c'est chiant, c'est vrai, c'est chiant.
Ça va mal faire.
Je suis déprimée.
Je suis ennuyée comme pas possible.
Très bien, très bien, très bien.
La chieuse de service.
La chieuse de
La
service.
La chieuse de service.
La chieuse de service.
Avec ses lunettes de genre.
Salut la chieuse.
Salut.
Comment ça va?
Ça va bien.
On va parler de quoi aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vais parler d'un film d'Agnès Varda qui est ressorti en salle dernièrement. Ça s'appelle Le Bonheur. Donc c'est Agnès Varda dont je viens de kiffer Visage Village. Et la date de tournage, 1965. L'année où les femmes mariées obtiennent le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Donc je me dis, c'est tout bon, limite j'y vais les yeux fermés avant de les ouvrir sur un film formidable. Je précise que c'est une séance avec commentaire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dont je n'ai toujours pas compris la légitimité à prendre la parole, qui va intervenir après le film pour nous donner son avis et animer les échanges. Alors c'est important car je vais autant vous parler du film que du dispositif. Il dit, avant le lancement du film, « Je l'ai vu il y a longtemps, j'espère que je vais l'aimer encore ». Il dit encore, « Dans mon souvenir, Le Bonheur est un film d'horreur. » Waouh ! Le film commence. Alors, d'un point de vue formel, on est vraiment dans une image, une iconographie champêtre colorée. Tout est évident, simple, lumineux, pas d'aspérité. François Menuisier aime sa femme, qui est une image de la femme parfaite. Elle travaille, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de l'intérieur, elle va même jusqu'à ranger sa brosse à dents à lui, alors qu'il est encore en train de faire sa toilette. Elle est toujours souriante, jolie, tendre et disponible pour les désirs de son homme. Les pique-niques réguliers, la montre en train de tout préparer, d'organiser un système pour coucher les enfants, avant de venir se blottir contre son mari, qui bien sûr pendant tout ce temps n'a rien fait, absolument rien. C'est une femme très amoureuse et très généreuse avec lui, et dans sa vie sociale et professionnelle. Elle ne sait pas dire non à ses clientes qui lui demandent un surplus de travail dans un temps très contraint. Et tout ça dans une fluidité joyeuse, sans aucune plainte ni ressentiment. Une femme parfaite, on vous dit. Et là, lui, il va rencontrer une jolie postière. Ils vont tomber amoureux et démarrer une liaison. Encore dans la plus grande des simplicités des évidences. Il lui parle évidemment du grand amour qu'il a pour sa femme. Et évidemment, elle comprend tout à fait. Car c'est aussi sa façon de vivre sa vie. François est tellement heureux que ça se voit. En tout cas, sa femme le voit. Et lui demande, au cours d'un pique-nique, pourquoi autant de bonheur? Et bien sûr, il lui répond. Donc, il lui dit qu'il a rencontré quelqu'un qu'il aime, mais qu'il continue à l'aimer elle. Et il espère qu'elle comprendra et que cela n'abîmera pas leur amour. Saura-t-elle accueillir cela? Elle saura, bien sûr. Elle l'aime tellement. Ils font l'amour, tout va bien. Ils s'endorment dans la campagne, puis elle se réveille avant lui et part se promener. Et là, quand il se réveille à son tour, elle a disparu. On la cherche. Et devinez où on la retrouve? Morte, noyée. Mais une fois encore, tout est simple. Pas de larmes, pas de douleurs. On organise un conseil de famille pour savoir qui va s'occuper des enfants. Parce que lui, vous comprenez, il peut pas. Il travaille. Sa femme, couturière, qui prenait trop de travail, souvenez-vous, on attendait d'elle qu'elle parvienne à tout cumuler. Mais lui, il faut pas exagérer quand même. Et lui, il va évidemment retrouver la postière, qui lui dit « Je suis malheureuse et heureuse à la fois ». Les voilà en pique-nique, et François lui dit « Je veux me promener. Je te laisse faire connaissance avec les enfants, les apprivoiser. » Parce que bien sûr, si elle veut la place de la femme défunte, elle en prendra tous les rôles et toutes les responsabilités. Elle accepte, parce que c'est le bonheur de François qui prime. Et la dernière image, on voit de dos la famille recomposée. François avec sa postière, chacun, chacune, donnant la main à un enfant. Même si nous sommes désormais dans un paysage d'automne, le bonheur est restauré. Ouf, on a eu peur. Les femmes sont interchangeables puisque ce qui compte, ce n'est pas leur personnalité, mais bien leur capacité à s'occuper du foyer et des enfants. La lumière se rallume, je m'écris. Oui, c'est vraiment un film d'horreur. Je suis tellement en colère, je me dis ça n'est pas possible. Sûrement quelqu'un, quelqu'une a été indigné par ce film et en a parlé. D'accord, je suis une chieuse de service avec des lunettes de genre, mais là quand même ça crève les yeux qu'il y a un problème. Ni une ni deux, je commence à explorer différentes critiques. Je précise juste qu'à sa sortie, le film a fait scandale et a dû être interdit au moins de 18 ans. Et là je tombe sur un certain nombre de figures rhétoriques, d'arguments qui reviennent en boucle. Je vais en aborder trois. Premier argument, le côté avant-gardiste du film. Déjà, j'aimerais dire que l'indignation suscitée par un film n'est pas forcément la preuve de son côté avant-gardiste. Mais lisons les mots des autres. Le bonheur était peut-être, à l'époque de sa sortie, trop en avance sur son temps. La révolution sexuelle n'était pas encore passée par là, et Agnès Varda bousculait alors les mœurs en mettant en lumière un polyamour qui n'est jamais condamné. Nous y voilà. Le polyamour. Parce que, messieurs, dames, nous ne sommes pas en présence d'un vulgaire adultère. Qui, vous me l'accorderez, n'a rien d'avant-gardiste, mais d'un polyamour. Ah d'accord, alors. Ah mais oui, mais moi si on me dit rien, si on m'explique pas aussi. Alors pour François, le bonheur s'additionne. Il dit à sa femme, toi et moi et les petits, on est comme un champ planté de pommiers, un champ carré, bien net. Et puis j'aperçois un pommier qui a poussé en dehors du champ, en dehors du carré, et qui fleurit en même temps que nous. Ce sont des fleurs en plus, des pommes en plus. Ça s'ajoute, tu comprends ? C'est beau, c'est frais, c'est tellement plein d'amour. Juste, rappelez-moi la différence entre un adultère et le polyamour. Le polyamour, c'est une forme d'amour où chacun, chacune des partenaires choisit d'avoir plusieurs relations en même temps. Le couple n'est plus dans une configuration à deux, mais devient pluriel. Mais il y a juste un détail qui est super important et qui vous a sans doute échappé, c'est que la caractéristique d'un polyamour, c'est que chacun et chacune est consentant-consentante, a choisi cette forme de conjugalité. Je vois pas bien à quel moment la femme du menuisier a choisi. D'autre part, si elle n'avait pas senti à quel point son mari était heureux, cette double relation serait restée cachée. Enfin, quand elle l'apprend, elle en meurt, même si le film est flou sur ce point. Nous y reviendrons. Bref, comme par hasard, ça s'additionne du côté masculin. Parce que moi, je suis la première à questionner la forme traditionnelle du couple, hein, la question de la fidélité, du désir, etc. Mais j'aimerais bien que ça concerne les deux sexes. Et là, pardon, mais on voit mal comment elle aurait le temps de vivre une deuxième histoire avec sa surcharge de travail permanente. Alors, je trouve une critique qui reconnaît quand même que le film ne questionne absolument pas le modèle patriarcal. Ah ! Mais de dire aussitôt que ça aurait été vraiment trop avant-gardiste de montrer deux hommes pour une femme et que la réalisatrice est quand même conditionnée par son époque. Mais alors je demande, avant-gardiste ou pas avant-gardiste ? Montrer un adultère déguisé en polyamour, c'est avant-gardiste. Et c'est possible. Montrer des femmes qui revendiquent leur envie de sortir du couple traditionnel, on ne peut pas prendre le risque. Le public n'est pas prêt. Bah, laissez-moi rire, 1965 quand même, année où il y a des avancées féministes. Alors il y a la postière, me direz-vous, qu'on nous vend comme un modèle de femme émancipée, puisqu'elle a l'air de dire, elle, que c'est aussi sa façon de vivre et qu'elle accepte tout de suite la situation qu'elle connaît. Or, comment on se comporte face à une femme émancipée ? Bah, quand on veut qu'elle reste seconde, on apprécie sa liberté. Mais quand on a besoin d'elle pour remplir ses bobonnes, pour faire le ménage, s'occuper des enfants et de son homme, alors là, vite fait, on la domestique. Sa liberté n'intéresse plus grand monde, même plus elle. Qui accepte de reprendre la place de la morte dans le foyer. J'ai même lu qu'elle est gagnante, puisque grâce à ce remplacement, elle acquiert en quelque sorte un statut social, celui de mère. Parce que la femme émancipée, qui n'est pas mère, a toujours quelque chose de suspect. Sa liberté à elle s'en le souffre. Alors, merci à monsieur de lui avoir donné de la respectabilité en lui permettant d'assumer le seul rôle qui grandisse la femme, celui de mère. Donc moi je dis, c'est pas la peine de mettre un nouveau mot sur une situation banale pour faire du novateur. Un mari qui trompe sa femme et qui légitime ça par l'ouverture d'esprit, c'est vieux comme le monde. Donc moi je dis que ce film, il est hyper pas avant-gardiste. Deuxième argument, la force du film, c'est de ne jamais condamner. Nous y voilà encore une fois, nous sommes au-delà de l'argument moral. Mieux, nous sommes dans la démonstration de l'extension du domaine de l'amour. Elle, la réalisatrice, ne juge pas ses personnages. Et cerise sur le gâteau, on restera sans savoir vraiment si la femme s'est suicidée ou si elle est victime d'un accident. Pouf, elle va nager, pouf, elle se noie. C'est bien pratique, cet argument d'être au-dessus de la morale. Cela évitera de se poser la question de la conséquence de la révélation sur elle et surtout de la responsabilité de François. Car en effet, cela n'est jamais traité. C'est un fait, elle est morte, mais il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. Je remarque que l'argument moral est toujours renvoyé côté femme. On fait preuve d'un esprit trop moralisateur, peu enclin à la richesse, à la liberté, quand on essaie, nous les femmes, de renvoyer les hommes à leurs responsabilités élémentaires. Toute tentative d'atténuer leur liberté de partir, de cumuler, de désirer, de ne pas s'occuper du foyer, de ne pas s'occuper des enfants, est perçue comme la preuve du côté étriqué des femmes, incapables d'assumer, de désirer, elles, leur liberté. Souvenez-vous de Brel, l'homme est fait pour partir dans le monde, la femme est faite pour le retenir. Par contre, dès qu'une femme essaie de s'émanciper, de revendiquer cette liberté, qu'elle aime elle aussi, hein, je vous rassure, si on l'aime, hein, alors là, ça gêne plus personne de remettre de la moralité dans tout ça. Les femmes qui ont plusieurs relations, les femmes célibataires, les femmes avec des hommes plus jeunes. Le visage de la salope n'est jamais très loin. Tant que les femmes libres, soit on les utilise, soit on les domestique. Et là, plus du tout question de liberté.